L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Le genre du concerto se définit volontiers comme un dialogue entre un soliste et un orchestre. C'est donc un dialogue asymétrique entre un seul individu et un groupe. Il peut y avoir du soutien, de la solidarité ou encore de la défiance et de grandes tensions. Et si on peut aller jusqu'à y projeter des histoires, on peut facilement entendre de la surenchère, des incompréhensions, des conflits, des tentatives d'écrasement, d'apaisement et des recherches de consensus parfois trop tardives pour permettre une réelle réconciliation. Et puis, comme dans tous les scénarios, il y a des passages obligés, des moments attendu, pas de concerto sans un moment où le soliste est absolument tout seul. Œuvre dans l'œuvre, ce moment s'appelle la cadence et offre, au moment du retour de l'orchestre, un instant de vérité sur l'état des relations entre le soliste et la masse de l'orchestre. Pour cet épisode Revenir de Métaclassique, nous ne ferons rien d'autre que d'aller et venir sur ces moments de revenir avec deux invités qui ont choisi les concertos qui jalonneront la discussion. Le chef d'orchestre, compositeur et pianiste Clément Maotakatch, qui dirige le Sécession Orchestra et qui est parrain de Métaclassique pour avoir participé à la première émission. Il fera son retour dans son numéro Revenir en compagnie du pianiste et consultant dans le secteur financier Antoine Moreau, qui nous offre un cas d'école pour commencer, la cadence de Gabriel Fauré pour le 24e concerto de Mozart. Éric Lesage au piano avec François Leleu à la tête de l'Orchestre Symphonique de Gävle en Suède. Bonjour Antoine Moreau.
Bonjour.
Alors avant de parler du retour précisément et du moment où l'orchestre revient après la cadence du piano, là il faut préciser qu'on est dans une cadence qu'on dit de compositeur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de Mozart mais de Gabriel Fauré. Et donc il y a une tentative d'être dans le style de Fauré tout en étant compatible avec le style de Mozart.
Ah ben là on est effectivement... Moi, en fait, j'ai découvert cette cadence via cet enregistrement sans savoir que c'était une cadence de Fauré. Et j'ai tout de suite pensé que c'était de Fauré. Donc, quand même, le style, on le reconnaît. Ouais. On le reconnaît tout de suite. Moi, ça m'a évoqué les premiers nocturnes, par exemple. Ces changements harmoniques, cette délicatesse, la texture, la transparence. Donc là, je pense que le compositeur de la cadence a imposé son style.
Donc c'est une parenthèse foréenne.
Alors c'est une parenthèse. Déjà c'est une parenthèse qui. On commence par une cadence qui est dans un cadre cadre classique et donc très formaté, avec une parenthèse bien délimitée, un début bien délimité, une fin, un retour de l'orchestre bien délimité. Là il n'y a pas de chevauchement, de fusion. On verra des choses beaucoup bien différentes après. Mais donc on est dans une parenthèse et on est également dans une parenthèse stylistique, mais que je trouve quand même très respectueuse du matériau thématique, du style de Mozart. Donc c'est vraiment pour moi une fusion de styles qui tend vers le Fauré clairement beaucoup plus que vers le Mozart. Mais
c'est quoi,
très réussi.
Donc le retour de l'orchestre, c'est une fermeture de parenthèse. Mais alors qui ferme la parenthèse? Est-ce que c'est Fauré qui gentiment s'arrête et puis laisse Mozart reprendre?
Là, il y a un effet un peu de surprise, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un trait qui se finit de manière assez abrupte.
Ouais.
Alors, peut-être qu'on est conditionné, on est dans Mozart, on s'attend à un tri et un retour plus attendu. Mais je trouve qu'il y a un effet de surprise qui est assez étonnant. Enfin, on ne s'y attend pas, en fait. Et ça renforce le côté un peu abrupt de la reprise de l'orchestre.
Bonjour Clément Matoutakatch.
Bonjour.
Alors, quand revient l'orchestre, c'est Mozart qui revient et qui reprend ses droits ?
Moi, je trouvais que c'était pas si brutal que ça, en fait. Je trouvais que c'était assez smooth comme arrivée. Parce qu'il y a tous ces tris, justement. C'est comme une espèce d'extrapolation du tri habituel dont Antoine parlait dans les concertos classiques, mais amplifié. Et du coup, il y a la brutalité de l'orchestre après vient bien s'insérer. Moi, j'avais plutôt l'impression d'un fondu enchaîné, alors avec des images assez fortes, qui s'enchaîneraient assez bien. Et je trouve qu'il y a quelque chose presque dans cette cadence, si je puis me permettre le jeu de mots, d'une euphorie foréenne, parce qu'il y a quelque chose qui monte à un point extrême, qui est très romantique, alors que la cadence classique, en général, plutôt calme le jeu, je trouve, et qui va bien avec ce concerto, qui a un caractère un peu pré-romantique aussi.
Et il y a un plaisir aussi de la cohérence stylistique quand même. Donc ça veut dire que c'est une cohérence d'un autre ordre. C'est-à-dire que ça s'emboîte bien, ça fonctionne, même si certes il y a deux espaces stylistiques différents.
Peut-être, oui, peut-être que justement l'art de Forêt, c'est d'avoir senti, en tout cas moi je trouve, sa proximité avec la palpitation mozartienne et la palpitation foréenne. Je trouve qu'il y a presque dans ce concerto-là ce qu'on entend aussi dans l'adagio du numéro 23 à certains moments, ces doubles croches qui commencent à animer le discours dans l'adagio. Il y a ça dans Forêt, et c'est vrai que du coup on sent bien tout ce que Forêt doit au monde classique, ce côté éloge d'un maître défunt, tombeau amoureux d'un style. Et en même temps, il réussit à insuffler sa patte. Et c'est un tour de force, je trouve, les cadences de concerto comme ça, surtout par de grands compositeurs. Je trouve que c'est très touchant. On devrait en avoir plus.
Alors, on va remonter d'encore un numéro, puisque vous venez d'évoquer le 23. On va aller écouter un extrait du 22, mais là, avec une cadence qui est peut-être encore plus éloignée stylistiquement. Il s'agit de celle de Benjamin Britten. Et d'ailleurs, c'est Benjamin Britten lui-même qu'on entend diriger l'orchestre de chambre en anglais avec au piano Sviatoslav Richter.
D'accord, à côté, sûr.
Un enregistrement de 1967. Alors là, on entend que dans l'écriture même de la cadence, Britten va et vient un peu dans des bouts de lambeaux de Mozart, et ça rend encore plus massif le retour de l'orchestre.
Là, on est allé très loin stylistiquement. D'une part, bon, ça c'est un peu une évidence quand on l'entend, parce que Juste avant le retour, on est vraiment très éloigné et c'est presque rassurant de se dire on sait comment ça va se finir, presque. Mais
oui, on sait qu'on retombera sur nos
pieds. On passe par des chemins inattendus, mais on sait à peu près où on va revenir.
Le suspense est relatif. Voilà.
Mais effectivement, là, ce qui est aussi étonnant, c'est la façon dont dès la fin du premier mouvement, il fait en fait une espèce de synthèse entre les trois mouvements, puisqu'on entend des bouts de deuxième et de troisième mouvement également. Donc il y a déjà cette originalité-là, plus le style. Et on a l'impression que le compositeur reprend complètement la main et rentre dans le jeu après une parenthèse un peu déjantée, quoi.
Mais alors ça veut dire que le dialogue se fait pas seulement avec l'orchestre mozartien, on dialogue aussi avec le genre cadence qui devient relativement mûr en 1967, comme ça ?
Oui, moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas seulement Mozart, c'est Schumann, c'est tout un pan de l'histoire de la musique qui passe. J'ai presque l'impression que c'est presque un télégramme envoyé à Prokofiev ou Stravinsky par moment. C'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, David, c'est des lambeaux, des bribes, et puis on a vraiment l'impression qu'il arrache ces lambeaux, qu'il les assemble, et en même temps, quand revient l'orchestre, il y a quelque chose de presque d'étonnant, avec un D non apostrophe, parce que ça nous fait bondir presque, alors que c'est le retour du classique pur. Et je me disais que finalement, c'est peut-être ça l'idée du retour de l'orchestre, c'est revenir en pays connu, c'est revenir dans un paysage familier, mais qui, parce qu'on s'en est éloigné, devient soudain quelque chose de neuf, ou en tout cas de différent.
Oui, donc il rend l'ancien à sa fraîcheur par un dépaysement du détour, c'est ça ?
Exactement. Même si je pense que, et on l'écoutera, je pense qu'il y a des concertos où la cadence est du compositeur lui-même, ou de l'interprète proche du compositeur, ou pour lequel ça a été écrit. Et on voit bien qu'il y a une espèce de cohérence qui est chercher dans certains exemples qu'on entendra un peu plus loin. Mais il y a effectivement cette idée d'un retour au pays natal.
Eh bien, venons-y à une cadence du compositeur lui-même. Et justement, Britten, Antoine Moreau, vous nous avez apporté son concerto pour violon. Ça veut dire, là, quand c'est le compositeur qui compose lui-même la cadence, qu'il fait un écart stylistique à lui-même ?
Alors, écart stylistique, non, mais là, ce qu'on va entendre, c'est vraiment, dans la construction même, quelque chose de profondément original. Déjà, c'est une cadence qui se situe à la fin du deuxième mouvement, qui va faire la transition avec le troisième mouvement, donc déjà une cadence de transition, ce qui est quand même assez rare. Alors, il y a le premier concerto pour violon de Shostakovich, par exemple, qui enchaîne les troisième et quatrième mouvements au travers de la cadence, également. Autant dans le concerto de Shostakovich, c'est brutal, et la cadence finit, et ça lance le quatrième mouvement. Autant là, il y a une espèce de chevauchement entre un violon qui est perdu un peu dans l'extrême aigu et dans une espèce d'extase qui préfigure d'ailleurs celle qu'il va y avoir à la fin du concerto lui-même. Et quelque part, l'orchestre qui revient en laissant le violon un peu à sa divagation pour installer cette passacaille, avec en plus ce rite de passacaille, donc cette espèce de marche et le côté un peu souterrain de ce qui se passe là. Et il y a en plus un jeu sur l'écart entre des sonorités plutôt graves, très profondes, et l'extrême aigu du violon. Donc c'est vraiment la façon dont c'est construit. C'est complètement intrinsèque à l'œuvre. Disons que là, c'est pas une cadence qu'on aurait rajoutée sur une œuvre existante. C'est vraiment c'est construit comme ça, quoi.
Oui, parce que quand on donne de la cadence l'image un peu prométhéenne de la fuite du héros, un peu dans une espèce d'hubris, forcément le retour de l'orchestre est toujours un retour à l'ordre. Sauf que là, c'est un retour à l'ordre, franchement, mais tranquille.
Oui, mais c'est moins un retour puisqu'on enchaîne sur une nouvelle idée finalement, sur un nouveau mouvement. Donc l'aspect réexposition qu'on a dans le concerto classique, le retour au thème qu'on a déjà entendu, là n'est plus d'actualité. Et en plus, il se trouve que cette cadence fait elle-même référence au thème également du premier mouvement. Donc en fait, on a un violon qui regarde vers l'arrière et un orchestre qui revient en installant toute la fin de l'œuvre, en fait.
Alors on écoute d'abord au violon donc Janine Janssen, et puis après donc elle est rattrapée par l'orchestre de Paris dirigé par Paavo Järvi. C'était au Proms de 2013.
Thank you.
extrait donc du concerto pour violon de Benjamin Britten. Antoine Moreau, on a l'impression quand même que l'orchestre a plus ou moins pris les leçons de ce qui s'était passé dans les égarements du violon.
Oui, bah disons que ce qui frappe également, enfin ce que j'ai pas dit auparavant, mais ce qui frappe en l'entendant ici, c'est que par ailleurs, le violon met énormément de temps à revenir. C'est comme s'il était complètement sorti du cadre. Mmh. Il s'est perdu dans ses aigus. Et il revient pas, ou il revient très tardivement. Donc effectivement, l'orchestre est complètement maître du jeu pour installer cette passacaille et les variations qui suivent. Ouais, c'est quand même assez frappant. Je ne sais pas s'il y a trop d'équivalents dans la littérature, mais...
C'est une brebis égarée, Clément Bautakaj, le soliste dans ce cas-là.
Ou le retour de l'enfant prodigue. Mais
on est toujours dans des métaphores un peu comme ça.
Oui, mais moi, ce que j'entends, c'est surtout, enfin, c'est typique de Britten, c'est, je trouve merveilleux de terminer en un sens la cadence sur un geste qui est cette gamme qui va fonder la passacaille et qui est reprise tour à tour par les différents instruments. Et c'est vrai qu'il y a un effet de disparition du soliste, mais je trouve qu'on n'en est pas frustré. Et on a justement l'impression que ce revenir-là, ben c'est un revenir qui est la possibilité de réécrire quelque chose. Et que l'épisode de la cadence, l'épisode du retour de l'orchestre, débouche non pas sur un retour brutal à quelque chose qui venait d'avant, mais qui est quelque chose qui est un futur qu'on est en train d'écrire ensemble et qui est lancé par le soliste. Et ça, je trouve le geste très intéressant parce que c'est presque le geste de l'inspiration lui-même. C'est comme si la cadence était le moment d'improvisation, ce qu'il n'est pas puisque tout est écrit, mais que c'est que l'orchestre tour à tour, un peu de façon concertante d'ailleurs, comme une immense symphonie concertante, vient prendre des bouts de ce discours et le reporter alors que peut-être le soliste lui-même est épuisé dans son geste un peu romantique. Et je trouve ça très touchant en fait, ce passage-là.
C'est-à-dire qu'il y a comme si c'était un transfert de charge dramatique.
Complètement. Pour moi, il y a un effet transitionnel et c'est d'ailleurs une des acceptions du mot revenir. C'est l'idée qu'on va pouvoir réinterpréter un matériau ou ouvrir sur une nouvelle page. Et ça, je trouve ça assez intéressant ici parce que ce retour de l'orchestre, il y a un effet à la fois de surprise parce qu'on n'attend pas du tout ce retour-là et en même temps une espèce de tuilage qui est très net à l'audition et on a l'impression de pouvoir gravir pas à pas l'inspiration avec eux, presque de voir le compositeur composer. On a presque l'impression de voir la partition sous nos yeux. C'est là où Britten est un compositeur extrêmement pédagogue ou didactique, je trouve, parce qu'il fait vraiment voir ce que l'on entend.
Oui, il y a un aspect extrêmement narratif, en fait.
Oui, c'est vraiment l'œil écoute, ça circule dans l'espace sonore.
Alors, on va revenir à presque l'âge classique, enfin au début du 19e siècle, avec un autre concerto pour violon, mais cette fois de Beethoven. C'est vous, Clément, qui l'avez choisi. Pourquoi ?
Ah, mon Dieu. Parce que je crois que c'est un monument, le concerto pour violon de Beethoven. D'abord parce qu'il n'en a fait qu'un. Que c'est presque un concerto de piano transformé en concerto de violon. Ouais. Parce qu'un concerto de violon, vous savez peut-être comme moi qu'un concerto qui commence par un effet un peu cadentiel de ses octaves au violon, c'est ce qu'on peut faire de pire. et au piano, ça sonne merveilleusement bien. Si vous jouez le début du concerto de Beethoven au piano, c'est un bonheur à jouer. Au violon, c'est un enfer, malgré la belle tonalité de Ré majeur. Et la cadence, je trouve qu'elle est... Et la sortie de cadence, surtout, elle est très belle parce qu'il y a quelque chose qui est en apesanteur, qui a été rarement réussi et qui est, pour moi, à porter au crédit d'un Beethoven qu'on imagine... rarement, parce qu'on voit souvent le Beethoven très héroïque, très, très romantique, j'allais taper du poing sur la table, mais en réalité, il y a aussi tout un Beethoven, celui des mélodies, des leaders, de la musique de chambre, qui est très intimiste et très intérieur, celui du deuxième mouvement de la quatrième symphonie, avec beaucoup de noblesse, et je trouve que c'est ce qu'on entend dans cette cadence, quelque chose de très beau, et c'est une cadence où l'orchestre me semble donner la main au soliste lors du retour du thème, dans une espèce, non pas de fragilité, mais si presque. Moi, j'ai l'impression de voir deux amants qui viennent de faire l'amour et qui se regardent avec douceur et s'étreignent les mains. Je suis toujours bouleversé par cette cadence.
Que l'on va entendre interprétée par la violoniste Hilariane avec l'Orchestre symphonique de Détroit, dirigé par Leonard Slatkin.
Agora Côte d'Azur. Thank you.
Clément Manotagatch, c'est un peu comme si la violoniste décidait de réaccueillir en fait l'orchestre qui s'y prête avec une douceur comme ça.
Complètement, il y a une belle expression, on dit aller de concert ou de conserve. C'est comme dans Tintin, le secret de la licorne, les trois licornes vont de conserve. Et aller de concert, ça veut dire la même chose, c'est aller ensemble dans le même mouvement. Mmh. Et c'est très beau parce qu'effectivement, on a l'impression que la soliste apporte la sortie de la cadence avec ses trilles. Et d'un coup, que l'orchestre l'accompagne vraiment littéralement pas à pas, pizz à pizz, j'allais dire. D'abord en scandant mesure par mesure, puis temps par temps, puis de plus en plus. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que ce retour de l'orchestre et ce retour du thème au violon, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du retour mémoriel pour moi. J'ai l'impression d'être dans Proust, d'avoir quelque chose qu'on a connu, qu'on a entendu, qu'on a su, qu'on a aimé et qu'on est en train de retrouver pas à pas, en train de mettre les mots dessus, en train d'essayer d'attraper ce souvenir qui pourrait s'effilocher. Et donc, c'est
comme un revenant.
Il y a quelque chose presque du revenant. Il y a quelque chose de spectral. Il s'agit bien de revenir ici. Et en même temps, quand on écoute toute la fin du concerto, en tout cas toute la fin de ce premier mouvement, il y a vraiment l'impression que ce souvenir, peu à peu, on va réussir à mettre la main dessus parce que ça remonte victorieusement jusqu'au triomphe. Et je crois que c'est quelque chose là qui se joue de ce qui fait retour. Qu'est-ce qui revient en la possession de notre mémoire, des interprètes, de l'auditeur, peut-être même du compositeur Demiurge. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de jouissance et de jeu de tout le monde là-dedans. Une espèce d'effort collectif, de se souvenir qu'on a entendu ce thème, de l'entendre peu à peu se mettre en branle. Et on entend, là on entendait bien que lorsque le basson recommence, il y a cet élan qui va nous porter jusqu'à la fin. Et on a souvent ça dans le retour de cadence, je trouve, ce sentiment qu'il y a une espèce d'euphorie qui nous gagne. Et c'est très beau la façon dont Beethoven le fait si progressivement.
Et alors, Antoine Moreau, c'est comme si aussi ça actait le fait que vraiment la virtuosité dont la cadence a pu être le spectacle est vraiment artificielle et pas l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est au moment où tout le monde revient ensemble.
Oui, ben là, c'est vrai que c'est... On n'est pas du tout dans la recherche de virtuosité. Effectivement, on est au contraire dans une espèce d'instant de grâce. Enfin, j'ai rien à rajouter à ce que...
L'instant de grâce, c'est dans le moment de retour. Il n'est pas dans la cadence elle-même.
Oui, tout à fait. Ouais. Dans le moment de retour, effectivement, là, ce qui est frappant, c'est cette progressivité. C'est-à-dire, c'est vraiment comme ce réveil un peu progressif. On arrive à capter, recapter les idées progressivement. Ça me fait penser à la cadence du premier mouvement du quatrième concerto de Beethoven, mais qui est aussi dans cette ambiance, qui est aussi sublime, on va dire, mais qui est quand même où le retour est plus franc, finalement. L'orchestre et le piano se retrouvent. Il n'y a pas ce côté immatériel qu'on a ici et extrêmement progressif avec effectivement ici on peut s'attendre à ce que l'orchestre revienne de manière assez marquée et effectivement il revient par toutes petites touches progressivement. C'est vraiment magique.
Clément, vous travaillez régulièrement avec la compositrice Kaya Sarriao, qui a été très marquée par ce concerto de Beethoven.
Oui, je crois que ça a été une des inspirations principales avec le concerto de Berg. En tout cas, pas une des inspirations, mais peut-être une des références dans son imaginaire.
Modèle, ouais.
Un modèle, je ne suis même pas sûr. Si, on entend le modèle de Beethoven, il y a quelques allusions justement dans son concerto Graal Théâtre. Elle lui a donné une dimension extrêmement théâtrale, justement, où elle a assumé le fait que le concerto, il y a quelque chose de l'entrée, de la sortie des protagonistes. Il y a d'ailleurs une version de ce concerto qui a été mise en scène avec un texte du metteur en scène Alexis Barrière. Donc il y a eu vraiment une désinence, si j'ose dire, théâtrale du concerto. Et c'est peut-être d'ailleurs un geste qui est intéressant. Je crois que récemment, le concerto de Sibelius a été utilisé pour un ballet à l'Opéra de Paris. Donc il y a cette dimension dans le concerto dramatique. Mais en ce qui concerne le Graal Théâtre de Kaya Sarriao, oui, il y a des références à Beethoven dans l'emploi de la timbale, dans l'emploi des cadences aussi. C'est un concerto qui commence avec une cadence, qui connaît au milieu de la pièce, en tout cas du premier mouvement, une autre cadence, en tout cas un instant de grâce qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient d'entendre dans Beethoven, et qui ouvre son second mouvement avec une cadence qui est issue d'un matériau qu'on entend à la fin du premier mouvement. Donc on a finalement les trois types de cadences qui ont été traitées par cette compositrice.
Et vous l'avez donc enregistré avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo et Peter Herestal au violon.
Exactement, c'était une série qu'on a faite avec Oslo et un disque entièrement consacré à l'œuvre de Kaija Saariaho. Et ce concerto, en plus, connaît divers formats. Ça, c'est la version grand orchestre qu'on va entendre, mais il y a aussi une version pour orchestre de chambre. Il y a même une version, on ne devrait pas le dire, mais pour deux pianos. Et c'est très beethovenien. Là, c'est l'essence même de piano et violon. Mais je crois que c'est une des œuvres les plus jouées de Kaija Saariaho, et notamment... Beaucoup d'interprètes se sont appropriés ce concerto, ce qui est finalement assez rare dans la musique contemporaine. Et je me demande si c'est parce qu'il n'y a pas justement, ou plutôt parce qu'il y a ce mélange parfait entre des moments de cadentiel et des moments justement où l'orchestre sans cesse vient taquiner, vient effleurer le soliste. Et c'est comme, en fait, c'est un concerto qui ressemble à une immense cadence et où tout le matériau semble venir systématiquement ou provenir des cadences qu'on entend.
On peut dire qu'il y a certains retours d'orchestre comme ça qui ont l'air de dire « bon, ça suffit maintenant
». Ah bah, oui, alors je pense qu'on en verra un tout à l'heure qui est flagrant de ce point de vue-là.
Oui, oui.
Mais,
là, on l'entendait un peu déjà.
Là, tout à fait, ouais. C'est, y a ce côté... alors tout à l'heure, c'était progressif, mais vraiment quasi linéaire, la façon dont l'orchestre revenait, c'était extrêmement pas à pas dans le concerto de Beethoven. Là, on sent qu'il y a effectivement des petites tentatives, puis ça coupe court, quoi. Moi, je donne le point de vue du novice, puisque je découvre ce concerto. Donc je dis juste ce qu'on entend j'entends à la première écoute.
Mais ce qu'on entend à la première écoute, c'est aussi ce qu'on a déjà entendu dans d'autres occurrences, comme par exemple une espèce de perte de métrique côté soliste que l'orchestre vient remettre d'aplomb à son retour.
De manière traditionnelle, dans la cadence, c'est sûr que même dans des concertos de Beethoven pour piano, par exemple, on sort complètement du cadre rythmique. À la base, ce sont des improvisations, donc évidemment, on s'autorise une perte de repères rythmiques. Et là, effectivement, on est complètement dans cette lignée-là. Ouais.
Oui.
Mais surtout quand la cadence ratiocine comme ça et semble tourner en rond et qu'on a le sentiment que l'orchestre vit une sorte d'exaspération. Et on a l'impression presque, il y a l'expression « mais vous y revenez encore ». Il y a un côté blâme ou plainte, je trouve. Et dans le retour de l'orchestre, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la condamnation de la cadence. Comme si cet espace solistique, cet échappé un peu en solitaire du soliste, était condamné par l'orchestre, mise à mal. Et je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la collectivité par rapport à l'individu. Alors c'est là qui se joue aussi dans cet espace de l'intime, comme si on disait, mais ça suffit à quelqu'un qui vient de s'épancher. Ça
un
suffit.
Rappel à l'ordre.
Un rappel à l'ordre, ouais. Vraiment. Et un rappel à l'ordre aussi bien thématique, musical, en disant non, on arrête l'improvisation là maintenant, on arrête le délire, on reprend les choses et on va à la fin du mouvement, ou on continue le mouvement, on assume le flux musical.
Est-ce que ça veut... Oui.
C'est paradoxal, parce que finalement, c'est quand même censé être le moment de mise en valeur du soliste. Donc si ce moment se termine par un rappel à l'ordre, c'est... Mais effectivement, c'est ce qu'on entend là. Mais c'est quand même un changement de paradigme assez étonnant par rapport à ce qui est le fondement historique, on va dire, de la cadence. Quoi.
Mais en même temps, si la cadence durait éternellement, elle deviendrait récital de piano. C'est arrivé dans le passé que des cadences soient trop longues. Et la cadence, c'est quand même un moment où l'orchestre, le chef et par chance le public, pas toujours, mais se tait malgré quelques toussotements d'anxiété et d'angoisse. Donc, il y a un moment où finalement l'orchestre devient spectateur. Et ça, moi, je trouve toujours ça dans le moment de la cadence assez étonnant et assez fascinant. C'est-à-dire que on assiste, le public assiste en miroir. Alors, à la Philharmonie de Paris, c'est tout autour de l'orchestre. Le miroir fonctionne pas exactement, mais quelque part, il y a cet effet de miroir où on se voit écouter, puisqu'on voit un orchestre écouter en position d'audition un soliste. Un peu comme quand le soliste fait son bis, vous savez. Et là, il y a quelque chose, justement, qui est de l'ordre de combien de temps ça va durer.
Et alors, il y a un symptôme de ça, c'est le trille, qui est justement une espèce de micro-étirement du temps, qui est une note qu'on fait durer par alternance avec la supérieure ou l'inférieure.
Oui, et puis qui a fonction de warning, de signal comme ça. On sent bien que quand il y a le tri, il y a quelque chose qui va... On va aller vers la fin, et il y a des célèbres exemples. Je crois qu'on va en écouter un dans pas longtemps.
Bah, tout à fait tout de suite. Donc, le premier mouvement de Schumann, et c'est Martin Argerich au piano.
Accord à côté sur...
Thank you.
C'était Ricardo Chailly qui dirigeait le Gewandhaus Orchester avec donc Martha Argerich au piano dans une version 2012 donc de la fin de ce premier mouvement du concerto pour piano de Schumann. Il y a une cohésion stylistique intégrale là pour le coup entre les deux.
Ah bah ça a le goût du Schumann, ça a l'odeur du Schumann et ça a le parfum du Schumann. Et c'est bien parce que c'est Schumann qui a écrit la cadence.
Oui.
Et une cadence très courte en fait de quelques mesures. Et qui reprend à la fois les thèmes de l'orchestre, ça s'enchaîne très très bien, et elle est courte, mais dès son centre, elle fait apparaître cette figure du trille qui va justement donner lieu à la coda, et on entend bien le côté chevauché fantastique de cette coda finale, et là on sent vraiment qu'il y a à la fois l'effet où on va ensemble quelque part, mais il y a un effet prouesse, réussite, c'est une cadence qui est très pénible pour le soliste, parce qu'elle est très courte, il n'y a pas vraiment le temps de se laisser
d'installer
aller.
Quelque chose. Ouais.
Non, elle n'est pas lente, il y a des moments de poésie intense, mais ça doit rester très fluide, et c'est une cadence assez difficile à jouer, disons qu'il y a beaucoup d'occasions de se planter dedans. C'est pas monstrueusement difficile en termes de virtuosité, on va en entendre des plus difficiles comme chez Prokofiev, mais elle est redoutable, et en même temps, elle fait monter l'énergie de cette coda, et ça finit dans cette explosion, on a vraiment l'impression que c'est qu'on assiste à un assaut final des protagonistes et qui cette fois vont ensemble charger vers on ne sait quoi, la victoire ou la défaite, mais en tout cas dans une énergie commune.
C'est vrai qu'il y a un côté rampe de lancement pour tout ce qui suit, pour la coda. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est quand même dans un concerto éminemment romantique, avec tout le rubato qu'il faut jusque-là. Et on finit de manière hyper droite, là, de tout ce qu'on a entendu, il n'y a rien qui dépasse, c'est complètement à tempo. Donc c'est quand même, ça introduit une rupture sur la fin du mouvement stylistique qui est quand même assez étonnante, je trouve.
Alors, vous prononcez un mot que je crois qu'on n'a pas encore prononcé, qui est la coda. Mais alors, si la cadence prépare la coda, ça veut dire que l'orchestre ne revient que pour conclure. Sauf que là, pas exactement, même s'il ne revient pas très longtemps, il revient quand même pour un moment de musique, quoi. Enfin, pas seulement pour en finir.
C'est sûr que c'est un moment de musique. Il y a un nouveau motif, il me semble.
Oui.
De mémoire, je pense que ce motif, on ne l'entend pas avant dans le mouvement.
Faux.
C'est faux. Ah, ben voilà. Ah oui. Oui, mais c'est ouais,
on
c'est,
l'entend
c'est,
juste
c'est au niveau rythmique.
On l'entend rapidement d'un voilà. coup. Il est.
C'est l'aspect rythmique, voilà, dansant qui
ouais, c'est ça, qui le varie. Oui.
Mais
et qui le fait apparaître complètement neuf.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Ce qui est une des caractéristiques du revenir, c'est comment faire du neuf avec du vieux. Et l'orchestre, là, prend vraiment cette position avec un piano qui passe presque au deuxième plan en accompagnement.
Oui, c'est que son initiative de revenir n'est pas du tout soumise à une exigence de nouveauté intégrale. C'est ça qui... Ouais. Peut-être qu'avant donc, d'en venir à Prokofiev quand même, il y a le cas de Richard Strauss, Antoine Meureau, parce que là on est presque dans la symphonie concertante, tellement les cadences sont emboîtées dans l'intention de l'orchestre.
Oui, ben là on a des cadences qui sont entrecoupées. Enfin, c'est une pièce particulière parce qu'elle a un format assez court. Et puis c'est presque un concerto pour une œuvre concertante, disons, pour piano et timbales, parce qu'il y a aussi le cas très particulier du rôle des timbales qui
est quasiment un autre
début,
soliste
à la fin, ouais, un peu en cours de route. Donc c'est de toute façon un peu baroque dans la construction. Et il y a effectivement une cadence qui est entrecoupée, qui n'est peut-être pas selon les canons de la cadence, mais qui est quand même à la fin de l'œuvre, mais où là la façon de revenir après la cadence est assez particulière, je pense qu'on va l'entendre.
Et c'est à nouveau Martha Argerich, cette fois avec Claudio Baddò à la direction du Philharmonique de Berlin, un certain nouvel an, 92.
Thank you.
Extrait d'une œuvre qui ne s'appelle d'ailleurs pas Concerto, mais Burlesque de Richard Strauss. C'est vrai qu'on est un peu dans la symphonie concertante, on se disait, Antoine Morin.
Oui, mais ce qui est frappant là, c'est quelque part la cadence se termine par une fusion complète entre le piano et l'orchestre. Dans une œuvre qui jusque-là était assez morcelée, qui part un peu dans tous les sens, côté un peu feu d'artifice, là, ils se retrouvent, on a quelque part l'impression que le chef est, alors la pianiste en l'occurrence, danse à deux une espèce de valse un peu ironique, un peu légère, et ils se sont complètement retrouvés. Alors, il se trouve qu'ils vont un peu se reperdre après dans la toute fin de l'œuvre. Mais cette fusion-là, post-cadence, elle est quand même, il me semble, assez étonnante par rapport à la cadence habituelle.
Clément Maotakac, il y a un concerto un peu particulier où on a deux cadences qui sont à des places un peu inattendues. C'est le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, où il commence quasiment par une cadence.
Alors, il commence par une grande introduction orchestrale, très majestueuse, sur un rythme de danse française, de vieille danse française, et le soliste entre, ou plutôt la main gauche du soliste entre, et c'est très frappant parce que c'est une entrée fracassante, si j'ose dire, parce que Ravel a cet art du crescendo, il fait monter ce grand crescendo durant l'introduction orchestrale, et puis le soliste reprend. Et c'est un geste très frappant, très très romantique en un sens, mais à l'inverse de ce que sera la cadence finale, qui elle commence dans l'extrême grave également, mais cette fois-ci avec des figures beaucoup plus veloutées comme des clarinettes basses. Ce sont des arpèges avec la seule main gauche, et puis ces arpèges deviennent une troisième main comme chez Liszt, mais en fait une deuxième main, puisque le pouce va venir jouer la mélodie, et la mélodie qu'on a entendue au tout début de l'œuvre, justement joué par l'orchestre, qui est une espèce de réminiscence du Dies Irae, quelque chose d'assez lugubre, et qui en même temps est globalement en do majeur, si on regarde bien, un do majeur avec des si bémols qui passent, assez lydien, mais c'est la deuxième cadence fait référence au tout début de l'œuvre aussi. Donc là, les deux cadences sont liées par le même matériau, chaque note est écrite par Ravel, aucune place à l'improvisation du soliste, et en même temps une place donnée à ces cadences, accordée à ces cadences, comme on en trouve très peu dans beaucoup de concertos.
Mais est-ce que c'est vraiment encore des cadences? Parce que finalement, ça peut être aussi des temps vraiment solistes. On pourrait aussi les thématiser comme ça, parce qu'il n'y a pas tant de sorties de la mesure. Il y a un matériau qui est très imprégné de ce que fait l'orchestre par ailleurs.
Je crois que Antoine a prononcé un mot tout à l'heure, et c'est ce mot qui indique aussi l'espace de la cadence, c'est le mot rubato.
Oui.
C'est un temps qui n'appartient plus qu'au soliste, et même si tout est écrit, il y a quand même une marge de manœuvre, qu'on écoute Samson François ou Bertrand Chamaillou, qui sais-je encore, on entendra les différences étonnantes qu'on peut avoir dans une même cadence et qui n'ôtent rien à la musicalité ni des interprètes, ni à l'intérêt du chef-d'œuvre.
Donc c'est là qu'il y a un ambitus expressif pour les interprètes qui est maximal.
Il y a une grande liberté à cet endroit-là, dans la contrainte. Et ça, c'est très ravelien, je crois.
Agora Côte d'Azur.
Christian Timmermann au piano, avec Pierre Boulez à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres dans une version de 1998, donc du Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Ça pète toujours à la fin avec Ravel, hein.
Mais c'est surtout que ça revient magnifiquement parce que ça s'étage de nouveau et ça... Un peu comme chez Beethoven, ça s'étage, mais l'élan est tellement irrépressible, la façon de monter le crescendo. Et surtout, il y a ces trois appels que je trouve fascinants du soliste qui traverse vraiment le clavier avec cette sixte minorisée et qui donne une puissance tragique. Et on sent vraiment que c'est un concerto, si j'ose dire, de guerre, en tout cas écrit pour quelqu'un qui a perdu son bras à la guerre. Il y a une dimension vraiment presque de requiem et en même temps de triomphe là-dedans, et j'entends moi presque pas des mitraillettes, mais dans la dernière gamme en accord, le yapapapapapam, je trouve qu'il y a quelque chose qui vous cloue sur place, et c'est bouleversant. Mais je crois qu'Antoine disait que cette façon de sortir de la cadence et d'aller vers la fin avec cette espèce d'urgence...
Oui, avec une condensation de la conclusion,
on le retrouve
en fait.
Dans son autre concerto.
Oui, dans le concerto en sol, il y a aussi ce retour progressif, mais qui n'est pas placé au même endroit du mouvement et puis qui aboutit pas à la même conclusion. Mais là, ce que je voulais dire, c'est ce qui est étonnant, c'est que on entend beaucoup de cadences qui sont quand même... je reviens souvent à Beethoven, enfin au concerto de Beethoven, pour moi une espèce de référence, on va dire, sur le point de départ, on va dire, d'évolution des cadences après dans le 19e siècle. Mais on a souvent une succession quand même d'épisodes un peu disjoints. Et là, ce qui frappe, c'est le côté complètement organique, en fait. Et aussi anti-virtuose. Alors, anti-virtuose, pas factuellement, parce que je pense, enfin, je ne l'ai pas joué, mais bon, ça doit être absolument épouvantable pour le pianiste. Mais en tout cas, il n'y a rien d'apparat là-dedans. Et c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un discours qui se construit complètement, avec effectivement cette fin qui arrive de manière complètement inexorable, quoi. Enfin, c'est vraiment une lame de fond.
Et alors, cette conclusion est une parfaite introduction pour le dernier exemple que l'on va entendre, qui est le deuxième concerto pour piano de Prokofiev.
Ah ben là, oui, alors on est... c'est un peu le nec plus ultra en termes de enfin oui, je sais pas si revenir qui est le thème de l'émission est le terme adapté pour cette cadence là qui est hors norme à tout point de vue, parce qu'elle est hors norme déjà par sa longueur. Elle doit durer 5-6 minutes et elle doit représenter à peu près la moitié du premier mouvement, donc finalement il y a un développement assez restreint avant la cadence. La cadence est une espèce de montée progressive. Alors dans un peu ce qu'on a eu là, c'est-à-dire dans le volume, dans l'écriture, mais aussi dans la virtuosité. C'est-à-dire là, il y a un aspect où on est un peu tétanisé pour le ou la pianiste, parce qu'on sent une difficulté qui est atroce. Et cette difficulté est complètement en lien avec le pouvoir expressif de la musique. Donc ce n'est pas de la virtuosité gratuite, mais tout ça est intimement lié. Et... voilà, on se demande comment ça va finir, et ça finit de manière... Enfin, là, le retour de l'orchestre est complètement phénoménal, quoi. Ça revient en toute puissance, et bon, en gros, on est en train de crever l'abcès conjointement, piano et orchestre.
Quelque chose de cathartique.
Oui, je crois que le revenir de l'orchestre, en tout cas ici, ça indique déjà une réussite. C'est que la cadence, la prouesse de la cadence a eu lieu. Mais il y a aussi quelque chose du retour à la vie. C'est comme si on avait vécu collectivement une expérience extrême et que un des enjeux du concerto me semble être à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut revenir de cette expérience extrême? Et dans le retour de l'orchestre, il y a quelque chose, je crois, de l'ordre de la réussite, de la résilience, de la restitution, quelque chose qui agit comme après une maladie ou un chagrin, comme si on revenait à soi. Et l'emportement du soliste, le délire de virtuosité qu'on entend ici, enfin, on a presque l'impression d'être dans un asile de fous dans cette cadence, pas contrebalancé, mais presque épousé par le retour de l'orchestre qui le transmue. Et c'est par cette surenchère, je trouve, qu'on arrive à une espèce d'état normal, comme s'il y avait une lutte finale et en même temps une conjonction des forces. Il y a quelque chose de très puissant qui se joue dans ce concerto-là et dans le retour de l'orchestre après cette cadence monstrueuse.
Et nous allons nous quitter donc en l'écoutant sous les doigts de Juliana Adveva avec l'Orchestre Symphonique de la Radio de Francfort, dirigé par Adris Poga, un enregistrement en live au mois de janvier 2023. Merci beaucoup Antoine Moreau.
Merci à vous.
Et merci Clément Mahoutakage.
Merci David.